Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Ibrahim Malouf est un explorateur. Les terres qu'il défriche sont musicales et personne mieux que lui ne sait marier le jazz et les harmonies orientales, le rock et les musiques savantes. Vous l'avez compris, la fusion est le langage d'Ibrahim Malouf qui a, on peut le dire, resensibilisé le grand public à cet instrument encore trop méconnu qu'est la trompette. Ibrahim Malouf va faire vibrer tous les Zéniths de France à partir du 28 octobre avec son album Capacity to Love, et il s'offrira l'Accor Arena à Paris, c'est-à-dire Bercy, le 29 novembre. Mais avant, il nous donne rendez-vous sur Canal, dès ce soir, à partir de 19h, et pendant 3 samedis, pour un divertissement musical totalement inédit, baptisé Improbox, dont Kad Merad est le parrain. Bonjour Ibrahim Malouf.
Bonjour.
Je pense qu'une heure, ça ne va pas suffire. Hein.
En tout cas, je suis ravi d'être avec vous.
Formidable. Nous aussi, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont nombreux à vous écouter et à vous aimer, les auditeurs d'Europe 1. Bon, Ibrahim Malouf, vous dites, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui se spécialisent dans certaines musiques et qui, toute leur vie, ne feront que du jazz, que de la musique baroque ou de la musique indienne. Mais moi, j'appartiens à la génération qui vit avec toutes ces musiques-là à la fois. En fait, la fusion, c'est vraiment une question de génération.
En tout cas, c'est une question d'époque. Je pense. À notre époque, c'est impossible pour moi d'imaginer une musique qui ne s'inspire pas de toutes ces musiques qui existent dans notre poche à un clic près. Il y a tellement de choses à imaginer. Il y a 20 ans, c'était impossible comme ça d'accéder à toutes les musiques au moment où on a envie, comme ça, d'un claquement de doigts, gratuitement. Donc c'est une chance inouïe. Je crois que c'est quelque chose d'assez fou. Et voilà, je pense que c'est cette époque-là qui veut ça.
Alors, vous dites également que la carrière de trompettiste classique, exclusivement trompettiste classique, ne vous aurait pas réellement plu. Avec humour, vous confiez, bon, les trompettistes classiques, ils jouent un morceau d'il y a peut-être 500 ans, un petit peu coincé dans un costume avec une pape, et puis ils saluent sans vraiment sourire le public. Alors, malgré tous les concours que vous avez remportés avec le répertoire classique, vous n'auriez pas été heureux dans cette carrière-là ?
Bah, je caricature évidemment.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est avec humour.
Voilà, je caricature, mais c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on a du musicien classique et c'est pas complètement faux non plus. Il y a beaucoup ça. Et moi, je pense que j'ai vu mon père, j'étais à ses côtés, j'ai fait énormément de concerts à ses côtés quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris à faire de la scène. Et c'était quelqu'un qui avait tellement de respect pour la musique classique, pour la France, pour ce que la France lui avait apporté, pour toute l'école de Maurice André dont il était l'élève, etc. Mmh. Et donc, quand il était sur scène, il avait ce grand respect pour cette culture-là. Et donc, il était très sobre, très sérieux. Il venait, il avançait devant le public, il jouait son concerto, il saluait, il sortait. C'était très sérieux. Mmh. Et c'était très austère, finalement, aussi. Mmh. Et je ne voyais pas le plaisir qu'il avait à jouer. Donc, j'ai vu malheureusement trop de musiciens classiques dans cette posture-là, ouais. Parce que je pense que c'est une posture. Ouais. On parle de musique noble, comme si les autres n'avaient aucune valeur. Et donc il y avait cette manière de voir la musique qui ne correspondait pas du tout à la réalité de ce qu'est pour moi la musique classique. Quand on connaît la vie de Mozart, la vie de Haydn, la vie de Liszt, on sait que la vie de Bach, qui a fait de la prison, quand on connaît leur vie, on sait que ce sont des gens qui à la fois étaient dans un code, mais en même temps étaient des gens très libres et très drôles et qui s'amusaient aussi, etc. Donc j'avais une envie en tout cas de ne pas m'obliger à aller vers ça. Même si j'aurais pu faire autrement, il y a des musiciens classiques qui ne sont pas du tout comme ça.
Bien sûr, mais Ibrahim Malouf, toutes les musiques, quand elles sont inspirées, vous font vibrer, mais vous êtes né dans laquelle ? Alors, votre père était un grand trompettiste, répertoire classique, mais en même temps, vous avez passé les premières années de votre enfance à Beyrouth, donc les harmonies orientales, tout ça. Quelles sont les musiques qui ont infusé les premières ?
En fait, j'ai passé beaucoup de temps au Liban, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi, je dis à peu près un quart de ma vie au Liban. Et je suis né au Liban. Donc l'influence de la musique arabe et la musique orientale est évidemment très très importante. Petit, je chantais ce qu'on appelle les mouachahat dans la langue arabe, c'est-à-dire les grands traditionnels de la musique arabe. Je connaissais par cœur des chansons de Abdel Wahab, de Saad Mohammed, de Fairouz, de Kulsoum, etc. Donc c'est peut-être ma langue maternelle musicale, mais très très rapidement à la maison. Ma mère jouait Chopin, jouait Schumann à la maison, mon père jouait Vivaldi, Bach, etc. Donc ma deuxième langue maternelle, très très vite après, était la musique classique aussi. Donc je considère que ce sont mes deux, la musique classique arabe et la musique classique occidentale européenne, sont mes deux langues maternelles musicales.
Alors, soyons francs, avant vous, Ibrahim Malouf, avant vous, les trompettistes que connaissait le grand public étaient Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis, peut-être Chet Baker, et puis pour ceux qui aimaient le classique, Maurice André. Mais les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ces noms. La trompette n'est pas l'instrument de référence dans le rap, le R&B ou la techno. Donc, sans flagornerie, hein, on peut dire que c'est vous qui avez dépoussiéré cet instrument et l'avez rendu moderne et glamour auprès de la jeune génération. Parce que c'est un instrument, je le disais au début de cette conversation, encore assez méconnu.
Mais oui, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Ça, à la fois, c'est flatteur et en même temps, c'est un peu un piège parce que je ne voudrais pas me positionner comme ça. Mais je pense qu'il y a des trompettistes qui ont vraiment fait un travail fou. Tous ceux qui connaissent le jazz ou même la musique latino, Arturo Sandoval ou Cat Anderson aux États-Unis ou Maynard Ferguson ou des gens comme ça. Il y a des noms quand même. En France, on a Eric Truffaut, etc. Donc, il y a quand même des gens qui ont entretenu la valeur de cet instrument au-delà des clichés de la trompette, de la fanfare ou des trucs un peu finalement devenus un peu ringards. Donc il y a des gens qui ont entretenu le bon côté de cet instrument. Donc je ne suis pas non plus né de rien du tout.
Voilà, j'arrivais
sur un terrain quand même où il y avait un grand respect pour la trompette dans le milieu du jazz.
Soudain, on a le sentiment que cet instrument, vous l'avez réellement, de façon internationale, mis en lumière. Alors je voudrais savoir, pour vous, le supplément d'âme justement de la trompette par rapport au piano, à la guitare ou au violon, il tient à quoi ?
Alors c'est une bonne question. Il n'y a pas d'instrument meilleur que les autres, mais comme je suis trompettiste, et alors je vais vous dire un truc, je pense être un bon ambassadeur de cet instrument pour une bonne raison, c'est que je n'ai pas aimé cet instrument pendant très longtemps avant de finir par l'aimer. Donc j'ai commencé à jouer à l'âge de 7 ans, et je n'aimais pas cet instrument, je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça.
Incroyable.
Et j'ai commencé à aimer cet
instrument.
C'est-à-dire
que c'est votre père, en fait, qui avait décidé qu'il fallait faire
de
gamme sur une trompette.
C'est pas tout à fait ça non plus, je lui avais demandé, mais il m'a beaucoup encouragé, j'avais l'impression d'être pas trop mauvais, du coup je continuais, ça crée un lien avec lui, donc j'aimais bien ce lien, mais l'instrument lui-même, ça ne me plaisait pas particulièrement. J'ai commencé vraiment à aimer cet instrument, donc après avoir fini mes études à la trompette, après avoir fait tous les concours, etc., donc on va dire vers 23 ans à peu près, 22-23 ans, j'ai commencé à aimer cet instrument. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai fini par aimer certains aspects de cet instrument qui me l'ont fait aimer profondément. Et en partie, je pense, cet élément-là, pour répondre à votre question précisément, qui le diffère de tous les autres,
c'est
le souffle. Le souffle est le fait que les lèvres créent le son. C'est-à-dire, c'est une partie de moi, comme un peu comme une voix humaine, c'est elle qui crée le son. Alors qu'un piano, c'est un bout de bois qui tape
exactement,
sur des cordes.
Exactement, la note existe déjà.
Oui, exactement. Ou alors le violon, c'est du crin de cheval qui se frotte contre des cordes. Donc c'est la main active, mais ce n'est pas le corps qui crée véritablement le son. Alors, avec la trompette, ce sont vraiment les lèvres et le souffle qui est l'ADN du son qu'on entend. Donc c'est
vous
très personnel. Voilà.
Parlez bien, Ibrahim Malouf. Bon, avec cet instrument, vous vivez depuis 35 ans une passion absolue et parfois un enfer, parce que cet instrument, il est martyrisant. Il laisse des bleus et même des cicatrices parfois sur vos lèvres. Il paraît qu'à la fin des grands concerts, vous avez un régisseur qui vous amène des bacs de glaçons, exactement comme pour un boxeur après un match. C'est
ouais.
vrai, ça ?
Oui, c'est vrai. Surtout sur les programmes lourds, quand je fais deux heures et demie de concert, où vraiment j'ai des parties très difficiles, etc. C'est vraiment un instrument fatigant. Et à la fois, c'est pour le cœur, c'est pas très très bon pour le cœur. D'ailleurs, il y a beaucoup de trompettistes qui ont des problèmes cardiaques, qui ont eu des irrégularités cardiaques, etc. Et aussi pour les lèvres, en effet, qui s'abîment. Regardez, j'ai des hématomes là, tout bleu. À l'intérieur, j'ai des cicatrices partout.
Bon, donc, alors, Ibrahim porte très élégamment la barbe, donc ça ne se voit pas.
Ça cache un peu.
Mais d'ailleurs, la barbe, lorsqu'on souffle comme ça, est-ce que.
Si c'est trop long, ouais, ça peut embêter un peu.
C'est vrai?
Trop long, ouais.
Ça peut modifier légèrement la fabrication de la note.
Oui, un peu, parce qu'en fait, il y a les poils de la barbe qui entrent entre l'embouchure et la lèvre. Donc du coup, ça peut être désagréable pour jouer déjà, d'une part. Et en plus, ça peut irriter un peu plus.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Ibrahim Malouf nous réserve une surprise sur Canal qui va faire grand bruit. Improbox, ce divertissement musical totalement inédit qui démarre ce soir sur Canal, donc à 19h, 3 samedis de suite. On va en parler tout à l'heure, comme d'ailleurs du concert exceptionnel qu'Ibrahim donnera demain dans un stade à Bondy, ou encore du concert au Hollywood Bowl, c'est un tout petit peu plus loin, c'est à Los Angeles, fin juillet, avec Quincy Jones, s'il vous plaît. Alors, cher Ibrahim Malouf, Vous aviez seulement 8 ans quand votre père a commencé à vous entraîner dans ses concerts. Comme ça, il voulait que son fils l'accompagne. Vous dites pourtant, en fait, j'étais pas fait pour monter sur scène. Mais pourquoi ?
Parce que j'étais un enfant très introverti, timide. Je pense que les gens qui m'ont vu quand j'avais 8, 9, 10 ans, certainement auraient dû se dire, oh là là, le pauvre papa, quand il va prendre conscience que son fils n'est pas du tout fait pour la scène.
Et pourtant, votre père a continué de vous entraîner.
Oui.
Mais pourquoi voulait-il la présence de son fils si jeune à ses côtés ?
Mon père a toujours cru en ce que je faisais musicalement. Il a toujours été très encourageant dans la musique. Il voyait des choses que d'autres ne voyaient pas. Il voyait un talent, il voyait une musicalité. Il aimait le son que j'avais quand je jouais de la trompette, etc. Et moi, je n'avais pas conscience, si vous voulez, j'étais trop jeune.
Mais que jouiez-vous ? À l'âge de 8 ans, avec lui sur scène. Parce que c'était des grandes scènes. Votre père était un professionnel.
Oui, oui. On a fait beaucoup de choses. On a dû faire entre 300 et 400 concerts entre quand j'avais l'âge de 8 ans et l'âge de 14-15 ans. Donc c'était quand même beaucoup hein, pour cet âge-là.
Mais oui.
Et on jouait parfois, c'était des concerts de musique classique. On mélangeait de la musique arabe dedans. Donc on jouait du Vivaldi, du Albinoni, du Bach, du Leuillet, du Purcell.
Tout ça à l'âge de 8 ans.
Ouais, ouais. Mais ça s'explique. Je me fais pas passer pour Mozart ou quoi. Vraiment, ça s'explique. J'ai commencé à 7 ans et j'avais un cours tous les jours de entre 20 minutes et 3 quarts d'heure. Un cours chaque jour. C'est-à-dire, en général, quand quelqu'un va dans un conservatoire, il a un cours par semaine. Et puis, il n'y a pas de cours pendant les vacances. Et puis, il n'y a pas de cours pendant les grandes vacances non plus. Donc, pendant 2 mois, on oublie tout. Et puis, surtout,
et puis,
on fait des erreurs.
Et puis, son père n'est pas trompettiste professionnel qui joue à la maison, qui répète sans cesse.
Donc, vous imaginez, en un mois, j'avais à peu près, on va dire, 25-30 cours, ce qui est l'équivalent de presque une année entière.
Alors ça, marié au talent, voilà. Effectivement, ça donne des choses. Bon, Ibrahim Malouf, vous avez fait une arrivée sur Terre en fanfare, mais triste fanfare, puisque votre maman, à Beyrouth, a accouché sous les bombes. L'hôpital était bombardé. Vous aviez quel âge quand vos parents ont décidé de quitter ce pays en guerre permanente ?
Alors c'est un peu compliqué, hein. on quitte jamais vraiment un pays de manière brutale comme ça sur une décision. Mes parents faisaient des allers-retours pendant plusieurs mois, plusieurs années. Vous savez, à l'époque, c'était malheureusement comme ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pensait que ça allait durer quelques jours, ensuite ça a duré quelques mois, puis on s'est dit peut-être un an maximum, puis finalement deux, puis trois, puis quatre, et en fait ça a duré 16 ans comme ça. Et donc au début, mes parents faisaient des allers-retours, et à un moment, il a fallu qu'ils nous scolarisent. À partir du moment où on a été scolarisés, les allers-retours, c'était beaucoup moins possible, mais ils espéraient que la guerre se termine pour qu'on rentre à la maison, puis finalement elle a duré trop longtemps, et quand la guerre s'est terminée, j'avais 12 ans, donc on était déjà au collège, on allait bientôt être
Bien sûr. Mais alors, c'est parce que votre père avait étudié à Paris au conservatoire qu'il avait choisi la France pour terre d'exil ?
Oui, absolument. Et c'est Maurice André qui lui avait trouvé un poste à Étampes. Voilà, et mon père avait appelé Maurice André, il lui avait dit « Écoute, je vais essayer de trouver un endroit pour que tu puisses avoir un job. » Et cette place se libérait. Mon père est resté là-bas depuis. C'est-à-dire depuis qu'on est arrivé en France jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite il y a quelques années. Et je suis encore d'ailleurs, on est encore tous là-bas. Oui, on est encore tous
mais
là-bas.
Mais alors, toute quand on débarque la première fois, Étampes, Beyrouth, deux planètes différentes. Vous êtes accommodé comment ? Facilement ou lentement ?
Étampes, c'est une très belle ville. C'est une ville médiévale avec un vieux château. La mairie, c'est une sorte d'hôtel de ville qui appartenait à l'époque à Anne de Pisseleu, qui était une maîtresse de Louis XIV. Enfin, bref, c'est vraiment une ville très médiévale basée sur une richesse qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, il y a à la fois une population très pauvre et en même temps une bourgeoisie. Et mon père avait décidé qu'il refusait catégoriquement qu'on soit parqué dans les HLM ou qu'on soit dans les quartiers populaires. Et donc, il s'était saigné pour acheter une petite maison dans le centre-ville. Et donc, on a eu une vie de gens très pauvres au milieu d'un environnement bourgeois. Et c'est vrai, dans cette maison, on vivait avec mes parents et ma sœur. On n'allait jamais au restaurant, on n'achetait jamais d'habits. C'était toujours tous les élèves de mes parents qui amenaient les habits. Moi, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je ne m'habillais qu'avec les habits des élèves de mes parents.
Et donc,
on essayait de s'en sortir, mais on vivait dans un lieu calme, on va dire, et plutôt agréable.
Alors, vous n'aviez que 15 ans, Ibrahim Malouf, lorsque le milieu de la musique classique vous a repéré dans un concert avec orchestre de chambre, alors que vous interprétiez le deuxième concerto brandebourgeois de Bach, qui est considéré comme l'œuvre la plus difficile dans le répertoire pour trompette classique. C'était toujours votre père, votre professeur à cette époque-là,
absolument.
Et personne d'autre. Bon, quelques années plus tard, vous allez rencontrer la légende Maurice André qui avait formé votre père. Est-ce qu'il a été votre professeur ou jamais ?
Il n'a jamais été mon prof sur une période donnée, sur une période longue, sur un an ou deux. Mais j'ai pris des cours avec lui à une époque. D'ailleurs, il m'a sauvé la vie, parce que c'était une époque où j'avais décidé vraiment de mettre la trompette de côté, parce que j'arrivais plus à jouer, j'étais fatigué. Encore une fois, la trompette est un instrument très, très éprouvant, et donc mes lèvres ne fonctionnaient plus, j'étais très fatigué, très, très éprouvé par cet instrument. Et il m'a redonné goût, il m'a redonné envie. Ça a été magique d'ailleurs, je me souviens très bien. Il faisait un stage à Zurich, et mon père me disait, écoute, avant d'abandonner définitivement, va au moins passer une semaine avec Maurice André et les quelques élèves, et vois si vraiment tu veux plus, tu t'arrêtes après, mais au moins fais ça.
Mais est-ce Maurice André qui vous a mis en garde par rapport au monde de la musique classique, voulant vous protéger, alors que vous récoltiez partout les premiers prix dans les concerts internationaux comme
oui, c'est,
le...
moi, c'est, ouais.
C'est lui
C'est qui... moi qui lui ai parlé de ça. En effet, j'avais passé de nombreux concours, j'ai diplômé des deux conservatoires de Paris, j'avais gagné des concours internationaux, etc. Donc on me voyait un peu globalement dans le milieu de la trompette, les gens se disaient « bon, bah, lui, voilà, il va faire une carrière classique, etc. » Et pourtant, les festivals ne m'invitaient pas. Les festivals de musique classique ne m'invitaient jamais. J'étais jamais invité, pourtant j'avais fait mes preuves, quoi. Je me disais mais c'est quand même bizarre. Et donc j'en parlais à...
Récolter tous les premiers prix, je ne vois pas quelle meilleure preuve on peut fournir.
Mais en tout cas, voilà. J'ai Maurice André au téléphone et on parle de plusieurs choses. Et à la fin, je lui dis, Maurice, j'ai quand même une question à vous poser. Vous vous rappelez quand j'ai passé le concours qui porte votre nom, vous étiez président du jury, je suis arrivé en tête de ce concours. Depuis, j'ai fait d'autres concours également, j'ai été diplômé du Conservatoire de Paris, j'ai fait beaucoup de choses. Et pourtant... Et alors que je pense que j'ai des choses à dire, je ne suis jamais invité dans les festivals et je ne sais pas pourquoi. Et il a eu cette réponse, en effet, par téléphone, qui m'a marqué, que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, écoute Ibrahim, je vais être honnête avec toi, ce n'est pas demain la veille, c'est comme ça qu'il a dit, que les festivals de musique classique en France vont accepter que ce soit quelqu'un qui s'appelle Ibrahim qui leur apprenne comment on joue Mozart et Bach. Voilà. Et je savais que c'était très bienveillant de sa part. C'est une manière de me dire, écoute, voilà, te fais pas d'illusions, bats-toi, mais te fais pas d'illusions. Sachant que Maurice André, c'est lui qui a ouvert les portes du Conservatoire de Paris à mon père dans les années 60.
Bien sûr.
Voilà, alors que mon père s'appelait Nassim, et qui parlait pas du tout français, etc.
Absolument. Mais on pourrait alors imaginer que dans le milieu du jazz, on est plus ouvert, que c'est moins rigide que dans le milieu classique. Or, ces réticences, vous les avez connues dans le milieu aussi du jazz. Surprenant.
Pas tant que ça. Au début, ça m'a surpris parce que je m'attendais en effet à une ouverture d'esprit finalement plus... voilà, on sait que le jazz, c'est l'improvisation, c'est le mélange culturel, c'est les communautés noires, africaines, afro-américaines, etc. Donc on se dit qu'il va y avoir un peu plus d'ouverture. Alors certes, il y en a eu beaucoup plus. Hein, je ne vais pas non plus... beaucoup plus que dans la musique classique, mais il y a une partie du jazz qu'on n'a pas accepté, qu'on appelle ma musique jazz. Voilà, c'est comme ça, hein, je ne peux pas en vouloir à tout le monde.
Parce qu'elle était infusée d'harmonie orientale ?
Oui, et puis parce que je pense qu'en partie, n'étant pas éduqué au jazz au départ, je n'étais pas légitime. Voilà, c'est toute la question de l'autodidactie face à l'apprentissage académique.
Bon, votre hésitation à l'âge de 20 ans, Ibrahim Malouf, entre devenir architecte ou devenir trompettiste, elle était réelle ou pas ? À 20 ans.
Ah oui ?
Oui, totalement. Mais pour vous, il y a un lien entre l'architecture et la musique ? Est-ce que je peux dire, par exemple, que la musique, c'est une architecture qu'on apprécie les yeux fermés ?
Oui, je pense que tout le monde peut imaginer voilà, à quel point la musique, d'abord, est construite de manière architecturale aussi. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai décidé de faire ce métier pour créer l'environnement dans lequel on vit quand on a les yeux fermés. Et pour moi, la musique, c'est ce qui cadre notre espace et notre temps quand on est dans la poésie, quand on est dans l'émotion, et pas quand on est dans le concret et le pragmatique.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Nous revoilà sur Europe 1 avec un invité réellement exceptionnel, Ibrahim Malouf. Bon, trompettiste... plus qu'internationalement. Je ne sais pas si, d'ailleurs, dans les stations orbitales, on écoute votre musique, sûrement, parce que j'allais dire connue tout autour de la planète, et pas que. Voilà, Ibrahim Malouf. Juste avant de replonger dans l'interview, je remarque à votre pouce une bague en argent. Je suis intriguée. Vous la portez quand vous faites des concerts ou quand vous jouez de la trompette ?
Je porte cette bague depuis plus de 23-24 ans et je me suis amusé maintenant à jouer sur la trompette pour faire des rythmes en même temps quand je joue. Donc je fais de la percu en même temps. C'est marrant.
Incroyable. Bon, on saura tout presque dans cette émission. Alors voilà, Canal Plus et MyCanal vont se mettre en mode groove chaque samedi à partir de ce soir, Ibrahim Malouf, à partir de ce soir, 19h, grâce à un concept inédit, imaginé et présenté par vous, un divertissement musical baptisé Improbox, dont le parrain n'est autre que Cadmerade. Et comme Europe 1 fait bien les choses, voilà, c'est vous-même qui allez nous éclairer sur cette émission. Alors, en fait, serait-ce une carrière parallèle de présentateur de show qui démarre pour vous ce soir ?
Je crois pas, honnêtement. Mais j'ai eu un très très grand plaisir. Alors, c'est une émission qu'on a créée à l'occasion de la fête de la musique, donc c'est pour fêter la musique en grand. Et Canal a accepté en effet cette idée qu'on pouvait proposer un défi à quelques personnes, donc ils seront 5 au total, parce que l'émission sera le 24, on en diffuse 2, le 1er juillet on en diffuse 2 autres, et le 8 juillet 2 autres.
Une.
Voilà, une avec ensuite un bilan des 5 émissions.
D'accord.
Et donc j'ai 5 invités, et les 5 se prêtent à ce jeu qui est de dire, voilà, je ne sais pas grand-chose de tel instrument, mais je vais apprendre là tout de suite maintenant à en jouer.
Devant les téléspectateurs.
Devant les gens, voilà. Et je vais composer même une musique avec. Et en plus, on va la jouer en live, vraiment.
Et tout ça dans une émission qui dure combien de temps ?
Alors, chaque émission a duré à peu près 2 heures.
Ouais.
En diffusion, c'est une demi-heure chacune. Donc, on résume, évidemment. On ne montre pas les 2 heures en entier.
D'accord.
Parce que ça serait un peu long. Il y a des moments de recherche, il y a des moments de doute, il y a des moments où ça se passe.
Mais c'est un vrai défi.
Mais c'est un vrai
parce
défi, absolument.
Pour chaque invité, il s'agit d'un instrument, en fait.
Qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont jamais joué
pas.
De leur vie.
Incroyable.
Et puis, il y en a qui n'ont jamais fait de musique aussi. Parmi ces gens-là, donc qui sont même des gens qu'on connaît très très bien. On parle de Cadmerade.
Alors oui, parce que c'est casting de rêve quand même. Il faut nous dire Cadmerade,
voilà.
Kev Adams,
Noël Madani,
Stéphane
De Groot et Isabelle Nanty.
Formidable.
Voilà, donc c'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup. En plus, moi personnellement, c'est des gens que j'apprécie. Donc je me suis dit voilà, j'ai envie que ces gens que j'aime me fassent confiance et je vais à l'aide d'abord des musiciens qui sont avec moi, d'un coach qui à chaque fois va venir. C'est une ou un coach différent à chaque fois en fonction de l'instrument qu'il choisit. Donc, pour vous raconter l'histoire, ils arrivent sur le plateau, ils choisissent un instrument sur le plateau.
Oui.
On amène un coach pour cet instrument-là, on les fait travailler et ensuite, ils finissent par créer une musique. Et cette musique, on la joue avec tout le monde, c'est-à-dire et avec les musiciens, et avec le coach et avec tout le public qui ont tous des instruments de musique avec eux aussi.
J'ai hâte de voir ça ce soir sur Canal à partir de 19h. Bon, Ibrahim Malouf, je ne vais pas vous demander qui a relevé le défi avec le plus de talent parce que vous n'allez pas me répondre,
mais
bien
vraiment,
sûr.
Mais vraiment, tous ont été dingues, je vous assure. Tous. Mais vraiment, c'est fou parce que même les personnes qui ont produit cette émission avec moi, donc l'équipe d'Electron Libre Production qui ont vraiment travaillé de fond en comble avec moi pour que les défis soient relevés, que ça fonctionne et puis que Canal dise « Ah bah d'accord, on trouve ça vraiment bien, c'est super et tout », même eux me disaient « Mais Ibrahim, mais comment c'est possible ? Ils n'ont jamais, Kev Adams n'a jamais joué de violon de sa vie. D'où il va sortir ?»
Parce qu'en plus, il avait... Mais c'était un instrument tellement... difficile, complexe, enfin sortir un son, j'imaginais.
Sortir un son déjà.
Sortir un son, ça prend un temps.
C'est un temps fou.
Infini.
Et il y est arrivé. Il a été coaché par une super violoniste qui s'appelle Esther Abrami. Et puis autour de nous, on a des musiciens incroyables qui vont réussir à prendre l'idée de Kev et en faire. On a le défi et aussi de créer quelque chose. Donc on est dans l'improvisation. C'est-à-dire, on crée des choses. Non seulement il apprend à jouer d'un instrument qu'il n'a jamais joué de sa vie, mais en plus, il invente une musique et on la joue en live. Donc on remplit tout.
Oui, le concept est réellement inédit.
Toutes les cases
voilà,
sont cochées.
Voilà, et tout ça, vous allez le découvrir ce soir sur Canal à partir de 19h. Bon, demain, pour fêter l'été, Ibrahim Malouf, vous allez donner un concert gratuit en plein air. Un grand concert symphonique dans un stade à Bondy avec l'orchestre Appassionato.
Appassionato, oui.
Voilà, et alors les 28 et 29 juillet, eh bien vous serez au Hollywood Bowl, l'amphithéâtre mythique, en plein air lui aussi, de Los Angeles, au cœur des collines de Hollywood. Et vous serez sur scène avec Quincy Jones, la légende absolue de la musique américaine depuis 60 ans. Quincy Jones qui, entre autres, fut le producteur de Michael Jackson. J'aimerais savoir comment vous êtes rencontrés, parce que c'est plus qu'une rencontre, c'est une amitié dont il s'agit aujourd'hui. Alors, de quoi est-elle née ?
Alors je ne sais pas comment qualifier ça, mais je pense que Quincy Jones est quelqu'un de très bienveillant et très bienveillant avec les jeunes artistes parce que je pense qu'il se souvient de lui-même jeune artiste et de l'aide qu'il a eue, du soutien qu'il a eu de Nadia Boulanger.
Oui, parce qu'il a en fait étudié à Paris, n'est-ce pas ? Voilà. Ce que beaucoup de gens ignorent.
Absolument. Et donc c'est quelqu'un qui a envie d'aider. Voilà. Et depuis toujours, il a été à l'origine du succès de plein d'énormément de gens, de Sinatra à Ray Charles, à en effet Michael Jackson et tellement d'autres, même dans le cinéma, Will Smith et d'autres. Donc en fait, il a cette bienveillance. Donc je l'ai croisé en 2017 au Festival de Jazz de Montreux, où il avait ses habitudes. Il est venu voir le concert. D'habitude, il reste un peu et il part. Il reste sur le côté de scène et il part. Et j'avais dit, mais comment je peux savoir s'il a aimé ou pas, puisqu'il va partir. Ils m'ont dit non. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand il aime un concert, il commande des choses à manger et il reste jusqu'au
là,
bout.
Et là, il a beaucoup commandé de choses à manger.
Et moi, pendant tout le concert, j'espère, je le regardais comme ça sur le côté en espérant qu'il commande et que je le vois manger quelque chose. Et puis, ça se passait pas. Et à un moment donné, je vois un énorme plateau de sushis arriver. Je me dis, ça y est, c'est bon. Et donc, après le concert, je suis allé le voir. On a papoté et il m'a dit des choses adorables. Et il m'a tendu sa carte en me disant, voilà, je veux pouvoir t'aider. Donc, je voudrais que mon équipe et moi, on te manage aux États-Unis.
Et effectivement, il vous a fait venir aux États-Unis et à son anniversaire, chez lui en Californie, il vous a fait jouer avec Herbie Hancock et Stevie Wonder, c'est ça ? Moment de grâce ?
En fait, on a fêté ses 85 ans dans un lieu complètement fermé. Il y avait quelques personnes dans le public et puis c'était vraiment un comité réduit, comme ça, dans un endroit. Et on n'avait pas le droit de filmer, donc j'ai aucun souvenir visuel. J'ai pas de vidéo, pas de photo, rien.
C'est encore plus précieux, c'est dans le cœur.
C'était fou. Il y avait Usher, il y avait Kamasi Washington, pour ceux qui connaissent bien le jazz, Herbie Hancock, Stevie Wonder. Enfin, c'était complètement fou. Et je me suis retrouvé là avec ma trompette à jammer avec eux. C'était fou.
Et alors, que jouerez-vous sur scène avec Quincy Jones au Hollywood Bowl ?
Je ne sais pas encore, parce que le plateau est fou. Alors,
je vous assure, il va y avoir qui autour de vous,
Ibrahim ?
Je n'ai
pas le droit de le dire, mais je vous assure que à mon avis, on n'a jamais vu un plateau comme ça. C'est de la folie.
On peut imaginer,
Quincy, quand même.
Oui, bien sûr. Il est temps de parler de votre album Capacity to Love, qui marie dans un grand métissage musical jazz, funk, rap, électro, avec des featuring inattendus allant de Gregory Porter à Sharon Stone.
Ouais.
C'est votre idée ?
Ah oui, j'aime.
Il paraît qu'elle vous suit. Elle vous suit sur Instagram, Sharon Stone.
Mais depuis...
C'est une fan.
Alors, je suis pas fan, mais en tout cas, elle aime la musique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, une vraie geek de la musique. Et donc, en effet, j'ai découvert un jour par hasard qu'elle suivait mon compte et qu'elle likait régulièrement des vidéos et des choses. Elle mettait des commentaires, etc. Je me dis, mais il faudrait quand même que je la remercie de cette attention quand même. Et donc on a échangé et puis un jour je me suis dit, tiens, mais il y a ce morceau où il y a vraiment du sens pour moi, pour qu'elle apparaisse sur cet album. Il y a vraiment un écho à un discours de Charlie Chaplin. Je me dis, je veux quelqu'un d'aujourd'hui, une sorte d'icône du cinéma d'aujourd'hui. Bref, voilà, tout ça a mûri comme ça. Et je me dis, ben, si je ne lui demande pas, je ne saurai jamais. Donc je suis allé chez elle à Los Angeles et je lui ai fait écouter. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, évidemment Ibrahim, évidemment je vais le faire. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Elle a adoré cette musique et on a continué. Du coup, on continue, on travaille encore ensemble sur plein d'autres projets.
Extraordinaire.
Et c'est une femme vraiment, vraiment géniale.
Et bien alors cet album, il a généré des rencontres étonnantes parce que vous l'avez co-réalisé alors que toujours vous réalisez vous-même seul vos albums. Cette fois-ci, Capacity to Love, vous l'avez co-réalisé avec deux petits génies de la prod, un Français et un Américain qui vous ont emmené sur leur terre.
C'est ça.
Ce que vous adorez.
Henry Waz, qui est un super producteur, un jeune petit génie de la production californien, et Newton, qui s'appelle Arthur Cagem et qui se fait appeler Newton, qui est un jeune producteur français bourré de talent. Et c'est eux deux, voilà, je leur ai demandé de me sortir de ma zone de confort. Parce que c'est mon 17e album, mon 15e album studio. Donc il y a un moment où, pour se renouveler, il faut oser aussi sortir de sa zone. Et comme j'aime aussi la culture, la culture urbaine, le hip-hop, tout ça, j'ai écouté, jeune, j'écoutais tous les rappeurs de la soul, Wu-Tang Clan, Public Enemy, etc. Ou en France, MC Solar, IAM, NTM, enfin j'ai écouté tous ces raps-là quand j'étais jeune, et ça fait partie de ma culture aussi. Et donc j'avais envie d'intégrer ça, mais j'avais envie de le faire bien. Et donc, je pouvais pas, moi, me considérer comme un producteur de rap. Ça, je crois pas que ça aurait été pertinent. Et donc, j'ai fait appel à ces deux jeunes pour que ma musique vraiment soit dans l'air du temps.
Quand on dit jeunes, ils le sont réellement, même pas 30 ans, c'est ça ?
Ah oui, non, au moment où on a commencé à travailler ensemble, il y en avait un qui avait 22 ans, l'autre 23.
Non.
Donc, ouais.
22-23
ans, ouais. Ouais. Non, mais c'est vraiment des petits génies. J'étais très heureux d'oser confier cette responsabilité à des jeunes qui avaient énormément d'idées, mais qui n'avaient pas encore l'expérience et qui ont appris sur le tas avec moi aussi. Et ça leur a donné une expérience dingue. Et moi, ils m'ont renouvelé considérablement toute la manière avec laquelle je voyais les choses.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Ibrahim Malouf, lorsqu'autour de vous règne le silence, par exemple quand vous êtes seul, Vous vivez comment le silence? Vous accommodez bien du réel sans la musique?
Elle va très vite me manquer quand même, hein, à ce moment-là. Mais j'aime le silence dans la musique. Et pour moi, le silence est de la musique aussi. C'est le début, c'est juste avant qu'on démarre. Alors, c'est vrai qu'en radio, par exemple, le silence, c'est quand même très angoissant. Mais sur scène, par exemple, c'est génial. Le silence qu'on arrive à créer quand plus personne ne fait de bruit, qu'aucun musicien ne joue.
C'est-à-dire que là, les spectateurs sont en apnée. Quand c'est ce silence,
oui,
et que vous êtes sur scène.
Parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose, donc on l'attend. Alors, vous voyez, en radio, c'est plus angoissant déjà.
En radio, le silence, c'est comme une petite mort. Ouais. Mais sur scène, c'est une attente. Alors, vous venez de répondre à la question que je voulais vous poser, Ibrahim Malouf. Est-ce que le silence appelle la musique?
Je pense que oui. Je pense que c'est la meilleure intervention possible après le silence. Après le silence, tout finalement est futile, sauf l'émotion. Et l'émotion, c'est la musique qui peut l'amener.
Magnifique. Bon, je vous aurais mis, si j'avais été prof de philo, 20 sur 20, au bac, Ibrahim Malouf. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes trompettistes? Il y en a peu. Il y a des femmes pianistes, guitaristes, violonistes, flûtistes. Mais par exemple, une femme trompettiste, moi en France, ou alors c'est que vraiment j'ai de grosses lacunes, mais je n'en connais qu'une seule, c'est la jeune prodige de 24 ans, Lucienne Renaudin-Vary. Est-ce que la trompette serait un instrument de mec?
Alors ça l'a longtemps été, pour de très mauvaises raisons, parce que il y avait un aspect très macho dans ce milieu, dans le milieu des cuivres. Je pense que c'est un héritage un peu aussi de l'époque militaire, parce que la trompette est un instrument d'armée, etc.
Voilà.
Je pense que ça vient un peu de là, les fanfares, tout ça, ça devait pas beaucoup plaire aux filles de participer à ça. Mais maintenant, ça change évidemment, heureusement d'ailleurs, ça change. Mais c'est vrai quand même que l'instrument est éprouvant physiquement et faut avoir envie, donc je sais pas. Ouais.
Vous allez les faire bouger les lignes. Les lignes, d'ailleurs, vous les faites bouger en matière d'improvisation, parce que vous dites, Ibrahim Malouf, qu'on a installé la musique classique dans une sorte de musée, que les conservatoires sont en fait aujourd'hui souvent, hélas, des écoles de copistes. On apprend à reproduire sans donner le goût de la création. Alors que dans d'autres musiques subtiles et complexes, comme le jazz, tous les musiciens improvisent. L'improvisation, c'est un art qu'il faut vraiment introduire ou réintroduire dans les conservatoires?
Alors, je suis moins catégorique quand j'exprime les choses. D'abord, parce que j'ai appris à le dire avec plus de nuances.
Alors,
parce que je me suis fait...
je suis moins diplomate que vous. Ce sont mes propos, je préviens. C'est moi qui dis les choses d'une manière comme ça, un petit peu radicale.
Disons que je me suis fait souvent taper dessus quand je prenais pas assez de... Quand j'avais pas la délicatesse de nuancer peut-être un peu plus mes propos. Mais c'est vrai que j'avais tendance à dire les choses un peu de cette manière-là à une époque. Mais dans la musique classique, il y a en effet tendance un peu... Vous savez, les conservatoires ont été créés pour la conservation du répertoire. C'est-à-dire qu'il y a une époque, on a découvert le répertoire classique. On ne le connaissait pas. Ça partait dans les oubliettes. Il y a une époque, dans les années 1600, 1700, tout le monde s'en foutait de la musique classique. Personne n'en jouait. Donc il y a eu, à un moment donné, une vague de renaissance un peu de cette culture-là, où on a dit, mais il ne faut pas qu'on perde ce répertoire. On est allé faire des recherches pour retrouver les facsimilés ou les originaux, etc., des œuvres, pour pouvoir les rejouer. Et on s'est dit, il faut trouver un endroit pour conserver cet art-là. Et on a
créé
le
conservatoire.
Voilà. Donc forcément, dans la tradition de l'enseignement, puisque c'est dans ces conservatoires qu'on apprend à jouer, alors on apprend à jouer ces œuvres-là. Donc on n'est pas dans une dynamique, forcément, toujours, d'apprendre à celui qui est en train de jouer pour la première fois sur cet instrument. On ne va pas tout de suite lui dire, vas-y, invente ta musique. On va dire, non, tu as d'abord joué Mozart, machin. Blablabla. Et donc, c'est vrai que ça manque un peu. Je trouve que dans les conservatoires, on pourrait maintenant se moderniser un peu plus. Alors, ça se fait, hein, attention, ça se fait maintenant. Mais je trouve que ça se fait, mais très, très lentement. Et là où je nuance aussi, c'est que dans le jazz, on dit toujours qu'il y a beaucoup d'improvisation, mais c'est faux. Il y a une grande, grande partie du jazz qui n'est que de la répétition de codes, de phrases qui sont tout le temps les mêmes. C'est d'ailleurs souvent ce que les gens qui ne connaissent pas le jazz n'aiment pas. C'est qu'on a tout le temps l'impression qu'ils sont en train de faire... Et on se dit, mais il fait quoi en fait? Je comprends rien. Mais en fait, ce sont des codes, comme un langage, comme ça, qu'on reproduit mécaniquement sur la base de grilles harmoniques. Et ça, c'est pas de la recherche non plus, c'est pas de l'improvisation non plus. Donc vous voyez, c'est vrai dans les deux en fait. Hein.
Mais alors, je vais nuancer la question autour de l'improvisation. Y aurait-il plus d'improvisation dans les musiques orientales qu'occidentales?
Ah, clairement. Dans toutes les musiques folkloriques du monde... Et comme dans la musique en France, par exemple, la musique folklorique n'existe quasiment plus. C'est devenu des musiques pour enfants. Hein. Sur le pont d'Avignon. On rigole, maintenant, c'est pour les enfants qu'on chante ça. Mais c'était notre musique folklorique française, quand même. On aurait dû entretenir ça pour en faire quelque chose de génial, comme le Negro Spirito est devenu le gospel, et les gens adorent ça, etc. On n'a pas trop respecté les folklores en Europe, et ce qui est un peu dommage. Mais dans la musique arabe, dans la musique africaine, dans la musique indienne, même aux États-Unis, leur folklore américain, et partout, partout ailleurs, dans la musique latino, toutes les cultures folkloriques ont de la place, sont toujours là et existent encore. Et donc, dans le folklore, il y a beaucoup d'improvisation.
Bon, Ibrahim Malouf, vous n'êtes pas seulement un artiste immense, vous êtes un homme d'affaires. Vous l'êtes devenu par nécessité. Vous confiez avec humour. Bah, c'est très simple, j'ai eu la chance de n'intéresser aucune majeure compagnie avec mon premier album. Et ce fut une bénédiction, car j'ai dû créer mon label indépendant, Mister IB. Et je produis tous mes albums, je les distribue et je produis tous mes concerts. Donc vous êtes en fait l'homme le plus libre de ce métier, ou l'un des plus libres.
En tout cas, en tant qu'artiste, j'ai pas quelqu'un au-dessus de moi qui me dit non, ça faut pas faire, non, ça faut pas faire. C'est pour ça d'ailleurs que je peux faire 17 albums en 17 ans, en 16 ans. Il y a pas beaucoup d'artistes qui font autant et qui créent aussi, et cette liberté que j'ai. Et non, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a chaque album est très différent, etc. Alors que stratégiquement, les maisons de disques vont vous dire ah ben non, si cet album a marché, il faut que tu refasses un deuxième un peu pareil. Tu changes un peu les thèmes, mais tu refais la même chose parce que ça marchait, etc. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai cette indépendance de pouvoir faire tous les choix artistiques que je veux. Et ça, en effet, ça vient du fait que c'est moi qui prends toutes les responsabilités en produisant tout.
En revanche, malgré les Grammy Awards, parce que vous avez été nommé l'année passée, puis cette année, extraordinaire. Et malgré toutes les plus grandes scènes du monde sur lesquelles vous jouez, je sais qu'il y a une chose qui vous peine. Alors, je prends sur moi de dire, en 17 albums, je crois savoir que vous aimeriez quand même un jour être playlisté sur une grande radio en France.
Généraliste.
Ouais. Généraliste, ouais. N'est-ce pas ?
Mais oui, mais ça c'est... Mais c'est pas que pour moi, c'est... Vous savez, en France, il y a une quarantaine, enfin, à peu près 40 000 élèves, étudiants, musiciens, à peu près, on va dire 40, 40, 50 000, dans les grandes écoles, conservatoires, etc., de haut niveau. On a plusieurs centaines de milliers de jeunes qui pratiquent des instruments de musique en France. Il suffit de voir Orchestre à l'école, avec qui je collabore pas mal, qui d'ailleurs sont partenaires de l'émission Improbox, qui passe donc ce soir à 19h, et la Confédération Musicale de France également, qui sont nos partenaires. Quand on voit le nombre de personnes qui aiment les instruments de musique, on se dit, mais pourquoi ça ne passe jamais en radio, même à la télé aussi. Et donc, j'ai cette chance d'avoir eu un peu plus de visibilité quand même que l'immense majorité d'entre eux. Et donc, je milite pour ça en disant, donnez-nous un peu d'espace, donnez-nous de la place. Regardez, les gens aiment bien. La preuve, je fais des tournées de Zénith, on remplit des Bercy, ça va être la troisième fois. Les gens achètent mes disques. J'ai mon disque dont on parle depuis tout à l'heure, Capacity to Love, a été numéro 1 en jazz pendant 9 semaines de suite. C'est-à-dire qu'il y a quand même les gens aiment cette musique instrumentale.
Mais bien sûr.
Donc, pourquoi est-ce qu'on la passe pas en radio ? Et je me bats, mais vous pouvez même pas imaginer comment, depuis 17 ans, pour qu'un de mes titres puisse entrer vraiment sur une radio généraliste en playlist, une musique instrumentale en playlist sur une grande radio généraliste. Ça n'est jamais encore arrivé pour moi, et j'espère qu'un jour, une radio le fera. Voilà.
Eh bien, c'est certain, les radios le feront. Bon, les musiques de demain, Ibrahim Malouf, elles se dirigent vers quoi ? Elles vont ressembler à quoi, les musiques de demain ?
Alors là, si je savais... Je sais pas. Vous savez, moi, je dis souvent que la musique, si on veut pouvoir lire l'avenir, qui est quand même un fantasme de beaucoup de gens, de pouvoir lire le futur, il faut regarder l'art d'aujourd'hui. Parce que toujours, l'art essaie de se projeter dans l'avenir. Il n'y a pas d'artiste qui se dit, moi, je vais faire une œuvre qui vieillisse demain. Ben, on a tous envie de faire une œuvre qui reste. Donc, notre objectif est de créer quelque chose qui existe dans le futur, donc qui soit dans le futur. Et donc, si on connaît les codes artistiques de la peinture, du cinéma, de la musique, de la danse, etc., si on connaît ces codes et qu'on a appris à les lire, on peut lire dans le futur. Et donc, quelle est la musique du futur ? J'ai envie de vous dire, c'est la musique qui est créée aujourd'hui. Voilà.
Et la vôtre ? Votre musique à vous, si intime et si universelle en même temps. Voilà, elle est à savourer avec l'album Capacity to Love. Vous savez quoi ? On va se quitter sur cette phrase de Charles Baudelaire. Elle vous parle, cette phrase ? C'est la musique qui donne une idée de l'espace.
Oui, et si je pouvais être à côté de Baudelaire, je dirais « et du temps ».
et du temps. Magnifique. C'était formidable de se promener avec vous, Ibrahim Malouf.
Merci à vous.
Aujourd'hui, je rappelle que cette conversation est à réécouter en podcast sur le site d'Europe1.fr. Et ce soir, on est tous devant Canal 19h. À partir de 19h
en
pour
clair.
Un Pro Box. C'est en clair, mais bien sûr. Et la surprise va être immense parce que, attention, l'émission est explosive.
Vous voulez voir Kad Merad jouer de la trompette et super bien ? C'est ça que vous allez voir. Vous voulez voir Nawel Madani jouer du saxophone de dingue ? C'est ce soir.
On y sera. Merci Ibrahim.
Merci à vous.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.